foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Arnaud de Boissieu. Bonjour Arnaud, merci d'être venu à notre radio, mais je crois que vous avez déjà parlé ce matin avec Emmanuel Pella, Vivante Église. Et aujourd'hui, vous venez parler de la semaine pour l'unité des chrétiens, puisque vous êtes invité par le comité interconfessionnel de Toulouse pour faire une conférence demain à Monseigneur et puis à ceux qui s'occupent de les prêtres, les pasteurs, les diacres, tous ceux qui ont une responsabilité pour essayer de... dépasser cette contradiction ou cette opposition de la division des chrétiens. Alors, vous venez de Casablanca et vous êtes prêtre de la mission ouvrière.
Mission de France.
Pardon, mission de France, oui. Désolé. En même temps, cette émission, c'est de parler de la foi, des convictions de ceux qui acceptent de venir dialoguer avec moi. Alors, j'ai l'habitude de demander d'où vient vous, cette foi, vos convictions qui ont fait que maintenant vous êtes prêtre et vous êtes aumônier de la marine.
Alors, je suis d'une famille profondément chrétienne, donc j'ai reçu la foi au biberon, si je peux dire.
Famille nombreuse.
Un petit peu loin de soit de la mission de France, soit du monde maritime, mais voilà, ce sont des itinéraires variés.
Et cet appel venu très tôt ?
Venu très tôt, quand j'étais en classe de 8e, ça doit faire CM1, on doit dire maintenant. Voilà. Et puis, ben, cet appel ne m'a pas quitté.
Mais à la fois des études techniques
Avec des études, oui, à la faculté de physique et d'informatique. Il y a de ça bien longtemps, à l'époque où les ordinateurs ne tenaient pas dans une grande pièce.
Et les études ne vous ont pas détourné de cet appel vers...
Au contraire, c'est... Dans les années 70, donc le Concile Vatican II était encore proche, et donc cette ouverture de l'Église au monde contemporain dans toutes ses dimensions, y compris ses dimensions techniques. Comment vivre notre foi dans le monde tel qu'il est et tel qu'il va.
On dirait aussi l'ouverture aux marges. Sur le parvis, à ceux qui sont moins...
Ça, pas tout ça a suite. Été, je dirais, dans un deuxième temps, avec la mission de France, puisque le but de la mission de France est un peu de proposer la foi là où on ne l'attend pas, là où l'Église a en général du mal à aller, dans des secteurs un petit peu loin de l'Église plus classique.
Alors, donc, le petit séminaire, le grand séminaire ? Ou plutôt séminaire plus tardif.
Alors, séminaire particulier qui s'appelle les GFU, groupe de formation universitaire, c'est-à-dire formation, quand j'étais en faculté de sciences, en même temps une formation théologique, une première étape formation, disons, philosophique. Et puis, après un temps de travail professionnel au sein de la mission de France, le grand séminaire, avec formation en partie à la faculté catholique à Paris et chez les jésuites.
Puis l'Afrique, très vite.
Alors, la mission de France est présente essentiellement en France, missionnaire en France, mais comme prêtre Fidei Donum, moi je suis allé rapidement en Afrique. 7 ans au Cameroun, puis 10 ans en Tanzanie.
D'où un livre qui est sorti, je crois.
Avec un livre sur les enfants des rues en Tanzanie.
Oui. Et ensuite Marseille.
Et puis Marseille.
Votre parcours.
Voilà. Marseille pendant 12 ans, à l'accueil des marins au long cours, foyer de Port-de-Bouc, principalement, foyer des marins de Port-de-Bouc. Puis depuis 7 ans à Casablanca.
Vous êtes un globe-trotteur. Vous n'êtes jamais, vous tenez jamais en place.
Oui et non, parce qu'en même temps, on reste longtemps. Et puis, une de mes expériences humaines les plus fortes en Tanzanie, et pour ça, il faut rester quand même un certain temps, c'est la découverte. Parler une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Le swahili m'a rendu muet dans ma langue maternelle, le français. C'est-à-dire la découverte que quand on parle sa langue maternelle, on a l'impression que on peut tout dire dans sa langue. C'est faux. Il y a des choses que je ne peux pas dire en français, mais que je peux dire en swahili, y compris dans la vie très concrète, dans les salutations, aussi simple que ça. Alors ça, c'est une expérience qui, pour moi, est tout à fait fondamentale, qui ouvre à une autre dimension humaine et qui, pour moi, une dimension religieuse importante. Ma langue ne me permet pas de tout comprendre et de tout dire. Donc, il y a l'ouverture à un inconnu. Et ça, le swahili m'a permis de le découvrir et c'est une de mes expériences fondamentales.
C'est la Pentecôte, aujourd'hui?
Oui.
Chez vous, dans votre vie personnelle?
Voilà. Découvrir que on a besoin d'autres langues pour dire le tout de l'humanité.
C'est pas la glossolalie qui doit être interprétée. C'est vraiment une langue avec une grammaire, une syntaxe.
C'est pénétrer dans une langue, dans la profondeur d'une langue, qui permet d'entrer dans une culture et de s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que les langues sont muettes dans certains aspects de la vie très concrète des hommes de tous les jours.
Alors, comme nous avons aujourd'hui à parler des groupes bibliques œcuméniques, on voit aussi que cette difficulté de parler et d'interpréter la Bible, je voulais vous poser la question, la Bible, elle est traduite en langage écrit de l'Afrique de l'Est?
Oui, en swahili, bien sûr.
Comme en wolof, comme en d'autres
Le swahili est une... Nous sommes 100 millions dans le monde à parler swahili, donc c'est une grande langue. C'est la deuxième langue d'Afrique, donc elle est évidemment traduite.
Mais vous savez aussi que les groupes bibliques partagent à Toulouse, il y a 5 groupes, et c'est eux qui organisent les prières à Radio Présence tous les matins à 6h20 et à 7h20. Leur travail depuis une quinzaine d'années, depuis même beaucoup plus tôt, c'est justement d'interpréter ou plutôt d'échanger sur les diverses traductions, puisque la traduction œcuménique de la Bible n'est pas la traduction en langue très simple, ou bien si on va chercher Ronsard ou la Bible des réformés, le sens des mots évolue très vite en fonction des contextes historiques. Alors, sans revenir sur ce débat, est-ce que nous sommes sauvés par la foi ou par les œuvres ? En tout cas, nous sommes appelés cette semaine à évoquer les efforts que nous faisons vers l'unité des chrétiens. Malte vous parle en tant qu'aumônier de la marine et en tant que prêtre, à deux niveaux.
Alors, Malte est pour moi un point très particulier, puisque Malte est le centre géographique de la Méditerranée. Et la Méditerranée a un passage, une sorte de goulet entre le sud de l'Italie et le nord de la Tunisie. Il y a une distance assez faible. Et l'île de Malte est là, qui contrôle en fait le passage de l'ensemble de la Méditerranée. Donc Malte voit passer devant elle une grande part du trafic mondial, maritime mondial.
Pas seulement les portes-conteneurs dont vous avez parlé ce matin, et on peut réécouter l'émission avec Emmanuel Pella, mais aussi les petits bateaux et aussi alors tous ces bateaux de clandestins qui seront l'objet de deuxième temps de notre réflexion tout à l'heure.
Alors il y a aussi les phénomènes de migration clandestine ou autre, mais il y a aussi, il faut aussi avoir en tête, en Méditerranée, tout un commerce mondial qui est est-ouest, qui passe et qui transite à côté de Malte.
Avec la théorie libérale de dire il faut que les capitaux puissent circuler dans le monde, il faut que les marchandises, et elles le font, circulent sans entrave ou sans limite. Mais la question des hommes, alors vous travaillez avec les marins, avec ceux qui sont sur ces bateaux, mais aussi avec ceux qui doivent réfléchir à la dignité des hommes, non seulement dans le travail, mais aussi dans les déplacements. Alors Malte, pour en revenir, pourquoi est-ce que nous parlons de cette île? C'est que c'est elle qui a préparé la prière pour l'unité des chrétiens, et ça repose entre autres sur les Actes des Apôtres. On va en reparler, peut-être après la plage musicale, puisque Malte a choisi cette musique que nous écoutons maintenant. Ce soir, avec le père Arnaud de Boissieu, vous êtes prêtre et vous vous occupez de l'accueil et du travail des marins.
Des marins au long cours.
Je reviens sur la musique que nous venons d'entendre. C'est la musique qui est préparée par... avec tout le matériel de la semaine pour l'unité des chrétiens, par les églises chrétiennes de Malte et Gozo, donc des églises de plusieurs confessions. Et l'hymne Kindness Unusual est spécialement composé pour à la fois rendre grâce au Seigneur de cet effort pour l'œcuménisme et en même temps demander davantage de conviction dans ce travail de préparation pour l'unité des chrétiens. En fait, il s'agit des Actes des Apôtres au chapitre 28. Vous pouvez en dire deux mots. Paul était prisonnier, il part à Rome.
Paul part à Rome, donc de l'extrême est de la Méditerranée.
Prisonnier parce qu'on l'a accusé d'hérésie par rapport au judaïsme.
Et entreprend un voyage plein ouest vers Rome.
Difficile à l'époque où il y a des tempêtes.
Difficile et en hiver pris dans une tempête importante qui font que le bateau va s'échouer à Malte.
Mais il est attaché, et les autres prisonniers aussi. Et il demande au capitaine du navire, « Détache-nous et je prie mon Dieu qui va nous sauver de la tempête. Libérez-vous », ça c'est aussi une des prières des groupes bibliques œcuméniques tous les matins sur France Culture, « se détacher de ce qui nous encombre ». Ensuite, faire confiance en Dieu, ce n'est pas l'homme qui arrivera à se sauver, il doit s'en remettre à une certaine, à la transcendance et au Dieu. Donc là, comme prêtre...
Alors on peut faire une autre lecture qui est que... c'est un peu surprenant, dans les Actes des Apôtres, il y a deux longs chapitres qui racontent ce voyage, et de façon assez technique, et la tempête, etc. Quand on est sur le même bateau, les différences doivent s'estomper.
Le bateau doit arriver au port.
Pour que le bateau puisse arriver au port, quelles que soient les conditions, les différences doivent s'estomper. C'est ça qui est raconté dans les Actes des Apôtres. On peut le lire de façon évidemment symbolique. Si nous voulons que notre bateau arrive à bon port, il le fera au-delà de nos différences.
Alors Paul apparaît comme un facteur de paix dans la tourmente. Il sait que, loin d'être gouverné par des forces aveugles du destin, il a cette confiance en Dieu, qui est cette confiance, je crois, qui vous anime. Vos convictions n'ont pas changé ou ont changé avec toute cette expérience dans tous les pays du monde où vous êtes passé.
Ah, les convictions de fond n'ont pas changé. Elles sont, faut-il dire, malmenées. J'ai vécu ma foi chrétienne dans des pays assez différents. Je la vis actuellement dans un pays dans lequel on peut dire de façon un peu rapide qu'il n'y a pas de liberté religieuse.
La laïcité est vécue différemment selon les différents pays.
Oui, au Maroc, elle n'existe pas. Il y a une religion d'État au Maroc. Quel dialogue est-il possible? Alors, je sais que c'est au-delà de l'œcuménisme, mais on peut même, dans le cadre d'une religion d'État, découvrir, je pense notamment à la littérature soufie, des convictions qui nous rejoignent dans la démarche de croyants, au-delà du nom que nous donnons à Dieu.
D'ailleurs, ça, je crois que l'Institut catholique avait eu un échange avec un institut de théologie et de sociologie au Maroc pour dire comment est-ce qu'il est possible de travailler ensemble et même d'interpréter nos textes dits révélés ou sacrés. Mais c'est un autre débat nous avons parlé aussi avec Venaël qui évoque comme franciscain le dialogue avec l'islam. Des groupes bibliques œcuméniques ont plus de difficultés ou en même temps ont aussi une tâche importante pour interpréter la Bible. Et quand Paul arrive à Malte, il guérit même un des notables de l'île, et c'est pour ça que le thème de cette semaine pour l'unité des chrétiens, c'est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Or, cette humanité, vous la vécue, vous la voyez, qui est vécue sur les bateaux et entre les personnes peut-être du port qui peuvent soutenir parfois, en allant sur ces bateaux, les marins.
On retrouve la même... le même principe de fonctionnement que dans ces chapitres des Actes des Apôtres. Quand on est sur le même bateau, le but, c'est que le bateau arrive à bon port, et c'est une question vitale pour l'ensemble de ceux qui sont à bord. Donc, il est pour moi toujours sujet d'étonnement de voir des gens, y compris de religion ou de conviction politique, des marins différentes, et travailler ensemble sans que paraisse rien. Un bateau avec des officiers russes et ukrainiens travaillons ensemble, il y a une dimension humaine que je trouve tout à fait remarquable.
Avec aussi peut-être cette prudence, on dit pas de politique ni de religion sur le bateau. Il y a donc où ça reste dans le domaine de l'intime et de dialogue à plusieurs.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des sujets sur lesquels on doit... on est prié de ne pas faire de prosélytisme, si je puis dire. N'empêche que quelque chose apparaît, des signes religieux, quelle que soit la religion... Je n'ai jamais vu enlever sur les bateaux. On en voit toujours une icône, une image, un Christ, qui est toujours respecté. Comme prêtre catholique, je pose des chapelets. C'est une façon de visuellement de montrer que je suis un prêtre catholique. La façon dont les gens ne les prennent pas forcément, mais simplement les regardent. On sent un respect qui dit... une forme d'unité qui est surprenante, qui se passe dans le silence la plupart du temps, et qui montre que quand on est sur un même bateau, on doit aller vers le même but. Et ça, je pense que ça a une dimension symbolique qui est extrêmement forte.
Et puis parfois, justement, en cas de maladie, ou bien lorsqu'il y a des chocs ou des drames, on sent en fait aussi un appel à savoir qu'est-ce que le sens de la vie ? Comment est-ce qu'il y a une interrogation pour ou des formes de solidarité ?
Alors, je ne suis pas marin moi-même. Je ne visite les bateaux que quand ils sont attachés par de nombreuses amarres au quai. J'ai l'intuition que, en mer, les marins sont beaucoup plus sensibles que nous à terre à des dimensions qui les dépassent et avec lesquelles ils doivent composer.
Alors, et vous allez l'appeler
Dieu ou pas, c'est une autre chose. Mais je pense que les marins en mer sont beaucoup plus sensibles à ça.
Et vous avez publié des lettres de la mer ?
Des lettres de marins, qui ont été envoyées à un père jésuite, Roland Doriol, qui travaillait aux Philippines, que nous avons publié dans un livre.
Alors demain, vous allez parler de ces questions de la technique maritime, avec des rencontres de prêtres, de pasteurs, de diacres et d'aumôniers qui travaillent à l'unité des chrétiens. Et on voit que c'est un appel non seulement à réfléchir à la parole qui nous est donnée ou à la lecture de la Bible, mais à la rencontre de Jésus qu'on pense nous appeler à ce que le monde soit meilleur et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, à ces marins qui ont des vies difficiles, qui sont souvent longtemps éloignés de chez eux.
Oui, qui vivent une catégorie de migrants, qui vivent souvent loin de toute institution, notamment religieuse, mais qui doivent vivre leur foi. Sous quelle forme ? C'est difficile, ce serait à eux de répondre, plus qu'à moi.
Alors, c'est à ça aussi que sert la prière pour cette semaine, puisque nous avons à la fois une prière en lien avec les enfants des rues de Roumanie, mercredi. Nous avons aussi la soirée de louange avec les jeunes du Chemin Neuf. Je pense que dans les paroisses, il y a eu ces questions ces rendez-vous. Et puis la semaine pour l'unité avec le rallye United Game. Donc, nous avons un bon programme pour cette semaine pour l'unité. Merci d'être venu nous parler de votre conviction. Merci aussi à réalisateur de cette émission. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Bon travail.
Merci beaucoup et à bientôt.